Chronique du Pays Toulousain. Une émission proposée par les Toulousains de Toulouse avec Aline Thomazin et Sébastien Pénary.
Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle chronique du Pays Toulousain présentée par les Toulousains de Toulouse. Je suis en compagnie d'Amandine de Pérignon. Bonjour Amandine.
Bonjour Sébastien.
Alors aujourd'hui, nous allons partir à la connaissance d'un homme, d'un Toulousain, Georges Godion, qui a vécu dans le premier tiers du XXe siècle. Et vous avez fait paraître un livre à son sujet il y a un an environ. Comment vous êtes-vous intéressé à ce personnage de Georges Godion, avant de parler du personnage lui-même ?
Eh bien, en fait, il apparaît comme un incontournable quand on s'intéresse à Toulouse entre les deux guerres. Il est à la croisée de plusieurs mondes, celui des artistes, des écrivains et poètes, des éditeurs, mais aussi dans ces courants qui promeuvent les spécificités régionales dans les arts qui souffrent du centralisme parisien. Comme beaucoup de personnes de sa génération, c'est un promoteur de la création locale qui est alors très très riche.
Alors qui est Georges Godion ?
Alors Godion, il est né en 1885 à Toulouse, mais sa famille paternelle est originaire de Pézenas, pas très loin de Béziers, où les Godion sont propriétaires terriens et gravitent dans le monde du vin. Ses parents sont installés rue du Thor, dans un bel hôtel particulier à côté de Gibert-Joseph aujourd'hui, hein, au numéro 19. Et ils n'auront que Georges comme enfant, et ce dernier, il va être choyé. D'ailleurs, il y a beaucoup de photos dans les archives, des photos d'enfance le montrant en train de faire du vélo avec son papa ou jouer à la pelote basque dans leur maison de campagne à Launaguet, le Dortis. Il faut s'imaginer effectivement qu'au début du XXe siècle, Launaguet, c'est encore très campagne. Il y avait beaucoup de maraîchers et il a grandi donc dans un milieu privilégié entre la campagne de Launaguet et le centre-ville de Toulouse. Alors, il commence des études de droit. Mais au bout d'un an, ça ne lui plaît pas. Il abandonne pour s'inscrire dans une nouvelle école, celle d'ingénieur chimiste créée par Paul Sabatier. Cependant, sur les bancs de la fac de droit, il va faire une rencontre très importante. Un ami pour la vie, c'est le poète Tounis Léris.
Alors la poésie va être la première corde à son arc, donc.
Effectivement, parce qu'avec Tounis Léris, alors qu'ils sont donc tout jeunes étudiants, ils vont créer une revue de poésie à Toulouse. Il s'associe avec le père de Tounis Léris et un autre étudiant, Louis Estève. Et donc, tous les quatre, ils créent cette revue qui s'appelle tout simplement Poésie. Le but, c'est d'éditer des poèmes inédits d'auteurs vivants. Il faut penser qu'en 1905, le monde de la littérature est en ébullition depuis une quinzaine d'années déjà. Il y a beaucoup de petites revues qui naissent un peu partout en France. La poésie est très populaire et tout le monde écrit quelques vers. Mais la revue Poésie se démarque en ce qu'elle dure assez longtemps, jusqu'en 1911, et surtout par la grande qualité de ses intervenants. Toutes les tendances de la poésie s'expriment, que ce soit le post-symbolisme, notamment l'école belge, les mistraliens, mais aussi des poètes plus avant-gardistes. En 1909, il riposte au manifeste des futuristes italiens de Marinetti avec le manifeste du primitivisme qui rencontre un certain écho jusqu'en Espagne. Parallèlement à la revue, Godion fait publier des recueils de poésie qui rencontrent un succès d'estime.
Alors deuxième corde à son arc, la musique je crois.
Et oui, c'est un pianiste, il compose et surtout l'aspect le plus intéressant c'est qu'il s'intéresse au jazz à ses balbutiements. On ne peut pas vraiment appeler cela du jazz, mais il écrit quelques pièces de ragtime, de cakewalk, dont les noms sont assez évocateurs, Champagne Cocktail, Toronto City. Il arrive même à vendre des compositions à des éditeurs américains qui en font des cartons pour piano mécanique. Hein, donc c'est un petit peu voilà, le début du succès pour notre héros. Godion, il est toujours à l'affût des nouveautés, que ce soit en matière d'art, de musique, de voiture, car c'est aussi une autre grande passion de Georges, les autos, les bagnoles. Voici un extrait de ses poèmes sur les joies de la conduite sportive, hein, je cite. « Quand sous le masque transparent, tu crois connaître ma figure, je suis le Prométhée forgeant, sa légende qu'il transfigure. Saturé de boc et d'amer, et las du rond de cuir podagre, je veux m'infuser au grand air, au chant d'un moteur qui déflagre. Adieu rive de la Garonne, forant la rue et les brouillards, mes quatre cylindres entonnent l'hymne triomphant du départ. » Et disloquant mon char nomade, piaffant, hennissant de fureur, sous le fer du capot gambade, 40 pégases vapeurs. Bon, c'était un petit extrait d'une de ses poésies, mais c'est vrai que c'est amusant parce que c'est toute une époque qui revit dans ses vers.
C'est l'entrée de la voiture dans Toulouse aussi, qui est évoquée de manière poétique, une voiture qui encombre la ville. Et donc, outre la poésie et la musique, autre corde à son arc, la peinture.
Oui, alors il peint depuis tout jeune en fait, hein, très 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 jeune, il commence à dessiner les paysages autour de lui, du Dortis, ce qu'il voit. Mais c'est véritablement à partir de 1910 qu'il commence à délaisser la plume pour le pinceau. Car c'est là qu'il se sent vraiment en pleine puissance de ses moyens, c'est finalement son meilleur moyen d'expression. C'est pourquoi il va produire en grande quantité des aquarelles essentiellement. Il excelle dans le style art déco avec des compositions qui mettent en avant la modernité de la société. On a vu voilà, cet attrait de la voiture, mais il y a aussi l'esprit de fête de ces Roaring Twenties, les cocktails, les dance floors, l'émancipation des femmes, le tourisme. C'est une peinture gaie et positive, très souvent, tout ce dont on a besoin en ce moment, et qui ne manque pas d'humour. Alors il est comme une éponge, il absorbe tout ce qui fait son temps, il passe par toutes les phases de la peinture et tâte de tous les courants, impressionnisme, cubisme, fauvisme, expressionnisme. C'est tout à fait étonnant parce que quand on regarde son catalogue, on replonge dans une histoire de l'art du XXe siècle et c'est sûrement son côté un peu chimiste hein, qui ressort là.
Il est dans toute la richesse de création de l'après-guerre. Il décompense le stress de la guerre, peut-être aussi. Et donc, Georges Gaudian avait quand même un métier, outre ses arts, cette pratique des arts. Il avait quand même un métier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot?
Oui, effectivement, ce n'est pas un artiste à temps plein en quelque sorte. Hein. Il était ingénieur chimiste. Il consacre effectivement tout son temps libre à la peinture et à l'écriture. Alors, dans sa vie, il a eu la chance de suivre, on l'a dit, l'enseignement de Paul Sabatier, qui fut prix Nobel de chimie en 1912. Et d'ailleurs, Gaudian a participé aux travaux qui ont permis à Sabatier d'obtenir ce Nobel. Et ça, c'est vrai qu'on peut considérer que c'est une très grande chance, parce que Paul Sabatier, c'est une sorte de mentor pour Gaudian. Il associe voilà, cette attirance pour la science, pour la chimie. Mais Sabatier, c'est aussi un poète qui est mainteneur des jeux floraux, qui peint. Et donc, c'est vrai que c'est une figure à laquelle il se raccroche. Oui.
Figure d'honnête homme.
Ah oui, c'est un. Oui, Paul Sabatier, c'est la figure de l'honnête homme qui a jamais voulu quitter le Sud et rester à Toulouse, dans le Languedoc, de sa naissance.
Et sur la vie personnelle, donc, de Georges Gaudian, que sait-on? Est-il marié? A-t-il des enfants?
Alors oui, il rencontre sa femme en 1919 chez son amie Toony Leris, où elle fait le portrait de Madame Toony Leris. Car Luce, c'est le nom de sa femme, est peintre, mais elle est peintre professionnelle. Elle a suivi l'enseignement des beaux-arts de Toulouse, mais aussi d'Antoine Bourdelle à Paris. Elle se fait connaître pour ses portraits, mais aussi des nus, ce qui est peu courant pour une femme à cette époque. Alors c'est une fantasque rabastinoise qui a un caractère très haut en couleur, et Gaudian tombe sous son charme explosif. Ensemble, ils sillonnent les routes, car elle est aussi férue que lui de sport mécanique, mais par contre, ils n'ont pas d'enfants. Mais beaucoup de chiens qui les suivent partout. Par contre, ils vont créer beaucoup ensemble, des peintures, des petits tableaux de broderie, des arts décoratifs, et ils exposent ensemble ce portraiture. Ils sont assez complémentaires.
Et Georges Gaudian est aussi illustrateur d'ouvrages, de livres.
Oui, c'est vrai. Et c'est ainsi, en fait, qu'il a laissé sa trace de peintre en illustrant notamment les poèmes de Paul Morand en 1926, qui sont en quelque sorte son chef-d'œuvre. D'ailleurs, dans l'un de ses articles, parce qu'il fait aussi, il collabore beaucoup à la presse de l'époque, il partage sa vision de l'illustration. Je cite, Le véritable rôle de l'illustration est non pas de suivre pas à pas le mot, de suppléer par une mise en scène précise et une grande abondance de détails notre imagination défaillante, mais plutôt de créer une atmosphère, de baigner l'œuvre dans la lumière qui lui est propre. Alors que Gaudian s'amuse de la réputation d'éternel voyageur en première, de diplomate en congé illimité de Paul Morand, lui le voit plutôt comme, je cite, un personnage qu'il met en scène. Il y a toute une littérature là-dessus. Moi, j'imagine très bien Paul Morand sous l'aspect d'un monsieur placide, dégoûté du bercement des wagons-lits et de la cuisine des palaces, ne rêvant que de ses pantoufles et d'attendre l'heure du bon sommeil provincial en tournant les disques d'ébonite de son appareil TSF. C'est une autre vision de Paul Morand, effectivement. Mais leurs deux univers, ils se mêlent très bien, notamment dans ce travail d'illustration. Il illustre aussi des pastiches littéraires de Paul Rebout cette même année, avec des pastiches de grands maîtres, Matisse, Picasso, Fernand Léger, Laboureur, et l'ouvrage circule beaucoup. Un Gus Boffa, par exemple, il n'avait pas du tout apprécié la caricature et s'était fendu d'une lettre injurieuse à Gaudian.
C'est un touche-à-tout de génie, finalement, cet homme.
Je le pense en effet, car je ne vous ai pas dit qu'en plus de tout ce qu'on a déjà évoqué, il avait fait des décors de théâtre, créé des tapisseries, donné des centaines de conférences sur la musique et la poésie. Malheureusement, il meurt prématurément dans un accident tragique en 1942. Il a alors 56 ans. Alors qu'il redescend de Superbannière à Luchon, il fait une chute de 50 mètres en contrebas venant s'écraser sur le flanc de la montagne. C'est assez troublant car 4 ans plus tard, sa femme meurt dans un accident de ski dans les Pyrénées.
Il meurt donc à une soixantaine d'années. Et où est-ce qu'on peut voir ses œuvres aujourd'hui ?
Alors principalement au musée de Rabastens dans le Tarn, au musée du pays rabastinois, où une salle entière est consacrée à Georges Gaudion et à Luce Boyels. Au musée du Vieux-Toulouse, nous conservons ses livres de poésie, ses archives personnelles et notamment plus de 200 photos. J'ai évoqué au début de cette chronique le fait qu'il y avait beaucoup de photos d'enfance de Georges Gaudion. Et bien, toutes ces photos, elles sont visibles au musée du Vieux-Toulouse, chez les Toulousains de Toulouse.
Est-ce que vous avez pris donc plaisir à écrire sa biographie, Amandine ?
Et oui, bien sûr. Vous avez compris, nos auditeurs ont compris que c'était un personnage extrêmement complet, qui a de multiples facettes. Et donc, c'est vrai que ça a été un vrai plaisir pour moi que de reprendre ce travail d'étudiante que j'avais fait il y a une quinzaine d'années pour le condenser dans un petit livre, j'espère accessible à tous. Et pour ceux qui s'intéressent à la poésie, à la peinture, à la chimie aussi, à l'histoire de Toulouse entre les deux guerres, eh bien, je crois que ce petit livre, il paraît un peu incontournable.
Vous nous en donnez une référence de ce livre et chez quel éditeur ?
Alors, chez Hasard Atelier, vous pouvez le trouver à Toulouse, chez les libraires comme Privat, Ombre Blanche, mais aussi directement sur le site de l'éditeur Hasard Atelier.
Alors écoutez, j'invite nos auditeurs à se procurer votre beau livre. Et puis j'espère qu'ils auront apprécié la vie et la biographie à grands traits de Georges Gaudion. Je ne sais pas s'il a une rue à Toulouse, mais peut-être le mériterait-il.
Ah, je crois qu'il le mériterait, effectivement.
Merci à tous, bonne semaine.